clé en main du mois de décembre, Alain Roumestan, bonjour. Heureux de vous retrouver sur Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, Clé en main reçoit une jeune étudiante d'une école nationale supérieure d'architecture. Ottilie, merci de nous accorder de votre temps pour le métier d'architecte au féminin et bonjour.
Bonjour, je m'appelle Ottilie, j'ai 21 ans et je suis actuellement en première année de master d'architecture. Donc c'est ma quatrième année dans le domaine. J'ai un parcours scolaire assez banal, j'ai fait un bac S et puis ensuite j'ai enchaîné avec ces études.
Dans une enquête du journal Les Échos, qui titrait « Étudiants en architecture, ils se construisent dans la douleur », il y avait une affirmation qui m'a interpellé. « Fournir un travail colossal en un temps record jusqu'à se priver de sommeil est très fréquent. » Chez les étudiants en école d'architecture, on va donc essayer avec vous d'en savoir plus. Et je vais d'abord, pour commencer cette interview, vous demander pourquoi le choix de l'architecture? Qu'est-ce qui vous a plu dans ces études d'architecte?
Alors tout d'abord, avant de parler des études, c'était dans mon enfance. Voilà, j'ai toujours apprécié observer les choses autour de moi. Les châteaux d'eau, j'avais une obsession pour les châteaux d'eau. je m'intéressais beaucoup à l'intérieur des maisons. Voilà, j'observais ce qui m'entourait, comment on aménageait les maisons. Et puis, voilà, comment on vit le mieux possible chez soi. Alors, j'ai une famille qui n'en a pas fait son métier. Qui n'est pas dans le domaine artistique, mais il y a toujours cette dimension créative qui est présente, la décoration, on tapisse, on tape des fauteuils. Et je pense que j'ai un peu baigné là-dedans quand même. Mais l'architecture est venue à moi que vers le lycée. Au collège, je m'intéressais à l'architecture d'intérieur. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que il me manquait quelque chose, notamment en visitant les écoles d'architecture, en faisant les portes ouvertes. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir les clés ou de concevoir un bâtiment, mais d'avoir les clés aussi pour le comprendre et avant de faire l'intérieur. Donc, c'est comme ça que j'y suis arrivée. J'ai fait les portes ouvertes et j'ai trouvé dans ces études ce qui me correspondait.
Vous définiriez le mot architecture et le métier d'architecte de quelle manière?
Alors, pour moi, c'est vraiment concevoir pour quelqu'un, pour les autres, répondre à une demande, l'écouter, faire en sorte que de bien traduire les exigences des gens et puis répondre aussi en faisant en sorte que les contraintes ne se voient pas dans le projet final.
Pour beaucoup de Français, hein, et sans doute de gens qui nous écoutent, l'architecture, c'est très technique. On a l'impression que un bâtiment sort comme ça de l'esprit de l'architecte. Or, il y a un côté social, un côté humain extrêmement important. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ce côté social et de ce côté humain?
Oui, alors, ce qui est important pour moi, c'est tout l'environnement autour du projet. C'est pas seulement un bâtiment, un bâtiment qui tombe du ciel. Il y a tout un contexte. Pour des habitations, il faut que ce soit personnalisé. Mais aussi dans l'urbanisme en général, il faut que ça réponde vraiment à tout un besoin de la population, sinon on se retrouve avec des bâtiments et des projets qui ne seront pas habités ou qui sont délaissés, dégradés. Donc voilà, ce côté social et humain, je pense qu'il faut savoir se mettre à la place des gens pour ne pas être à côté en fait.
Se mettre à la place des gens, ça veut dire donc les écouter.
les écouter et essayer de mettre en forme les intentions, les envies qu'ils ont, il faut leur donner une forme.
Est-ce que vous avez déjà, maintenant que vous avez passé un certain nombre d'années dans cette École nationale supérieure d'architecture, est-ce que vous avez déjà monté des projets? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets concrets que vous pourriez nous présenter?
Alors, à l'école, les projets qu'on demande de faire, on a un projet par semestre. Ce sont des projets fictifs. Alors, on part d'un vrai site, un vrai lieu, pour en faire une véritable analyse. Mais on travaille pas pour que ce soit réalisé après. Alors, on a parfois des mairies qui viennent nous voir pendant les jurys, pour voir à quoi ressemblent nos projets, pour pouvoir s'en inspirer, voir ce qui serait possible de faire, mais on ne réalise pas de projet jusqu'au bout.
D'accord, mais vous produisez par exemple sur des projets proposés des maquettes?
Oui. Des maquettes, des plans, des coupes.
Vous pourriez nous donner un ou deux exemples de ces maquettes et de ce qu'on vous a demandé de réaliser, non pas naturellement en brut, mais en prospection?
Alors, on peut travailler sur de l'existant, donc des gares, des choses, voilà, à réhabiliter. Donc, quand c'est comme ça, on réalise une maquette de A à Z en montrant l'existant et en ajoutant notre projet. On a aussi travaillé sur des territoires un peu plus larges, donc on se retrouve à montrer le niveau du sol, les différents la topographie. On se retrouve à représenter un paysage entier en maquette. Voilà, on a vraiment tout type d'échelle et tout type de projet qui nous sont proposés à l'école.
She's one of those girls, you just take what you get, whatever sweet little morsels that just drip, drip, drip. She's the last one you call when your car doesn't start, but she lights up the party when you need a little spark. She never has no money, just runs down her neck. Never had a man that wouldn't have her back. You're not at all in the running, but you'll take what you get, whatever sweet little morsels that just drip, 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 drip. Like morning drip, 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 drip. She's stunning. It's one of those things, once you're caught in the net, whatever sweet little morsels you will take.
Alors, ces études à l'École nationale supérieure, je suppose qu'il y a hommes et femmes parmi les étudiants. Les femmes dans l'architecture, est-ce qu'elles ont la place qu'elles méritent dans l'histoire récente, ou bien est-ce qu'elles sont encore considérées comme, disons, des éléments secondaires?
Alors, à l'école, c'est assez différent de ce qu'on peut voir dans le monde professionnel. Nous, on n'a pas cette sensation en général on se distingue pas les uns des autres par notre genre. On n'a pas l'impression que parce qu'on est une fille ou parce qu'on est un garçon, on fait les choses d'une telle manière. Donc, en fait, entre nous, on travaille tous ensemble. On est à peu près 50-50, voire peut-être un peu plus de filles parfois. Et on réfléchit pas du tout à cette question-là pendant nos études. Alors par contre, au niveau professionnel aujourd'hui, voilà, on entend toujours des grands noms d'architectes hommes, et ça reste encore compliqué pour les femmes architectes d'avoir un véritable nom.
Oui, parce que je dirais l'auditeur comme moi-même, il considère que l'architecture, vue de l'extérieur, hein, par les cabinets d'architectes, etc., c'est grandement un métier masculin. Or, dans la réalité, comme vous le dites, et on le voit avec les statistiques des écoles nationales, on a bon nombre de femmes architectes, d'étudiantes architectes, qui vont sortir et qui vont donc devenir des femmes au travail et qui naturellement sont, comment on pourrait dire ça, des contre-exemples de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'elles sont là à l'égalité avec les hommes, alors que dans le public, on a l'impression que l'architecte, avec les grands noms, hein, on pourrait parler de Le Corbusier, etc., dans l'histoire, l'architecte est essentiellement un homme. Les premières femmes architectes, elles apparaissent à quel moment?
Alors, d'une manière générale, que ce soit femme ou homme, c'est un peu difficile de dater les premiers architectes parce qu'en fait, tout le monde a toujours fait de l'architecture avant, quand on réalisait son habitat soi-même. On peut appeler ça aussi de l'architecture. Mais le statut d'architecte, il est assez récent de toute façon. Les premières femmes, j'aurais pas la prétention de pouvoir les nommer, premières femmes architectes. Par contre, on a des noms de femmes qui sont passées par d'autres disciplines pour pouvoir se faire un nom après dans l'architecture, comme Charlotte Perriand, par exemple, qui a beaucoup travaillé dans la décoration. Et voilà, qui a fait par la photographie, par des recherches sur le mobilier, qui a pu ensuite arriver à l'architecture. Mais on a du mal à dire à partir de telle date on a pu voir des femmes architectes.
D'accord. Pour essayer d'élargir un peu notre conversation, les mouvements artistiques en liaison avec l'architecture, il y a une histoire de l'architecture. Alors, je ne vous demande pas de remonter naturellement à l'architecture de l'Antiquité, mais ces mouvements artistiques, est-ce que vous pourriez nous en présenter quelques éléments?
Alors, on pourrait parler de Arts and Crafts et du Bauhaus. Alors justement, dans toute cette réflexion autour de la femme architecte, ils ont été des mouvements intéressants, puisqu'ils ont essayé ils ont eu l'ambition de faire découvrir, en tout cas aux femmes, les formations et les métiers liés à l'architecture. Donc, en rassemblant les différents arts, en faisant des écoles, on a essayé de former les femmes architectes à ça. Bon, après, ça n'a pas forcément très bien fonctionné, mais ces mouvements ont permis d'évoluer un peu.
Le Bauhaus, qui est connu en France, si vous voulez, par un certain nombre, je dirais, d'intellectuels et d'érudits, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Comment il s'est développé, comment s'est développé, si vous voulez, cette filière architecturale?
Alors justement, c'est parti d'une école qui a été donc installée pour rassembler les arts et les savoir-faire autour de l'architecture. Alors, je ne saurais pas quoi vous en dire plus, mais
On laissera les auditeurs, s'ils sont intéressés par le Bauhaus, on les
Après,
laissera.
c'est tout un mouvement de penser, de concevoir, de faire. C'est très complexe, en fait. Ça s'est pas arrêté à une école, c'est devenu tout un mouvement.
Nos auditeurs intéressés pourront d'ailleurs se référer à quelques bibliographies pour en aller un petit peu plus loin. Les études à l'école nationale supérieure, est-ce que vous pouvez très rapidement, parce que nous pouvons avoir à l'antenne une étudiante en architecture, mais nous pouvons avoir à l'écoute des jeunes qui sont à la recherche de formation et de savoir quelle sera leur orientation future. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les cycles d'études à l'école, dans les écoles nationales supérieures et nous présenter un petit peu à quoi peuvent s'attendre des étudiants qui choisiraient cette voie?
Oui, alors à l'école d'architecture, ça fonctionne en licence et en master. Donc on a 3 ans de licence. Pour avoir le diplôme reconnu par l'État, diplôme d'architecte, donc il faut aller jusqu'au master. Ça fonctionne par semestre. C'est assez particulier dans l'organisation parce on a toujours un projet pendant tout le semestre et des cours magistraux à côté. Donc, il faut savoir aussi gérer, parce qu'on a besoin de toute façon de l'apport historique pour ensuite faire de l'architecture. Mais c'est assez compliqué, oui, de combiner tout ça dans un emploi du temps. On a des TD aussi qui sont là pour faire des exercices un peu plus approfondis. On voyage beaucoup aussi. Une à deux fois par an, on a un gros voyage. Ce qui nous permet avec les professeurs, de découvrir des choses qui sont souvent en lien avec les projets qu'on travaille, justement. Donc, ça peut être des voyages à l'étranger, comme en France. Ensuite, on a des partiels, des rendus de projet, comme dans toutes les filières. Et pour revenir à l'article dont vous avez parlé au début, c'est un rythme complètement dingue et voilà, c'est assez difficile parce que de toute façon ça relève de la créativité, donc on peut pas toujours être on peut pas toujours être à fond dans ce qu'on fait, pouvoir donner ce qu'on voudrait, puisque on est aussi victime de notre manque de créativité parfois, et voilà, c'est un rythme assez compliqué et très fatigant, mais quand on est passionné, on est très content d'être en école d'architecture.
Oui, ce que je voulais dire au démarrage avec cet article, cette enquête des Échos, c'est qu'on se rend compte que en France, on a l'impression que les études de médecine, les études de droit, par exemple, sont compliquées. Il y a du stress, il y a énormément de travail, énormément d'apprentissage. Et là, on découvre dans cet article que pour les écoles d'architecture, on a exactement le même type de stress, le même type d'implication à 100%. Avec des périodes où l'étudiant travaille vraiment comme une bête, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pourriez nous décrire une semaine ou une journée, si vous voulez, mais bon, une semaine, ça serait peut-être plus intéressant, ordinaire d'un étudiant en architecture? Comment ça se passe, les cours, les recherches, etc.
Oui, alors on va plutôt parler en semaine, puisque une journée par semaine est consacrée au projet. Donc d'une semaine à l'autre, on est amené à présenter une avancée en fait sur le projet. On est obligé d'avoir avancé. On ne peut pas laisser tomber pendant une semaine, se dire j'y réfléchirai après. C'est vraiment un travail qui est là au quotidien. Donc on a les cours la journée. En licence, on peut avoir jusqu'à 6 cours différents en plus du projet DTD. En master, ça s'étale un peu plus, on en a moins. Mais voilà, une semaine type, c'est 2 3 jours où on a beaucoup de cours, une autre journée avec DTD, et puis voilà la journée de projet. Et donc, il faut travailler aussi beaucoup le soir, le week-end aussi. On n'a pas vraiment de pause. de pause.
D'accord. Au niveau des, quand vous dites 3 jours de cours, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les matières enseignées, nous les reprendre pour les présenter?
Alors, c'est un peu difficile de parler pour toutes les écoles. Souvent, ça change de semestre à semestre, en fait, selon les thèmes qu'on aborde dans le projet. Ça peut être des cours qui seront en rapport avec le projet. Donc, on a beaucoup d'histoire, beaucoup, beaucoup, d'histoire de l'architecture, de l'histoire de l'urbanisme, de l'histoire des idées aussi. Avec de la sociologie, de la philosophie, on a des cours qui concernent plus les arts, donc magistraux, mais aussi on a des cours d'art plastique, on a de l'informatique, on a beaucoup de choses.
Au lycée, donc je dirais presque un tas de matières nouvelles qu'il faut naturellement intégrer dès l'instant où on est dans ces écoles de formation.
Oui, c'est complètement différent. Et c'est ce qui peut plaire ou déplaire en arrivant en école d'architecture, justement, c'est le décalage avec tout ce qu'on a vécu avant. Et oui, il y a des matières qui ne ressemblent pas aux mathématiques. On peut s'attendre aussi à beaucoup de techniques en architecture. Et en fait, on a quelques cours qui sont. qui traitent des matériaux, de leur résistance, etc. Mais c'est quand même pas une grande majorité des cours qui traitent de ça. Donc oui, complètement différent du lycée.
Travail de groupe, vous disiez tout à l'heure, vous avez des TD, etc. J'ai l'impression que dans ces métiers de l'architecture, le groupe est important. L'architecte ne travaille pas tout seul, et l'étudiant en architecture non plus.
Effectivement. Alors nous, on travaille beaucoup en groupe, surtout au début des projets, où on arrive sur un site, voilà, on doit chercher beaucoup d'informations pour savoir de quoi a besoin la ville, le quartier, la rue. Donc voilà, toutes ces recherches, on les fait par groupe. Ensuite, on finit la plupart du temps sur un projet individuel, mais dès qu'on a des TD, des exercices en dehors des projets aussi, on est très souvent amené à travailler en groupe, puisque de toute façon, c'est ce qu'on devra faire plus tard.
Ok. Dans un cabinet d'architecte, on travaille comment? Est-ce qu'il y a là aussi une multidisciplinarité comme il peut y avoir à l'école?
Alors, en fait, dans un cabinet d'architecte, on peut être spécialisé, donc être amené à faire souvent la même chose sur le même sujet et que d'autres personnes à côté le soient aussi pour d'autres sujets, donc qu'il y ait une complémentarité. On peut être amené à faire tout un tas de choses diverses. On peut voilà, faire des réhabilitations, des nouvelles constructions. On peut décider aussi de tout faire un peu soi-même. Ça dépend vraiment des cabinets, de ce qu'on souhaite. Mais évidemment, il y a plein de métiers qui se raccrochent au métier d'architecte, notamment sur les chantiers, voilà, les fournisseurs aussi. On n'est pas tout seul.
Et l'architecte est une sorte de coordonnateur, disons.
On peut dire ça comme ça, oui. Parce qu'il faut de toute façon qu'on sache quel type de matériaux on va utiliser, donc à qui on va faire appel. On a besoin voilà, de rassembler toutes les données pour pouvoir faire un projet et ça nous demande de faire appel à des gens autour qui sont spécialisés. Nous, on est un peu au cœur de tout ça, on n'est pas vraiment spécialisés, donc on a besoin pour rassembler tout ça de contact avec d'autres personnes.
Oui, ces autres personnes, est-ce que vous pourriez nous les citer? Quelles sont en quelque sorte les corps de métier que l'on peut rencontrer travaillant avec un cabinet d'architecture?
Alors là, je pense à par exemple des paysagistes, des urbanistes. En fait, ça dépendra du type de projet. Donc, un cabinet peut se retrouver seul sur un projet. Il pourra être en contact avec la mairie, avec des architectes des Bâtiments de France, par exemple, aussi, si c'est dans un site classé. Voilà. Et en fait, après, un projet peut être agrémenté par ses relations avec, voilà, je disais, paysagiste, urbaniste. En fait, ce sera vraiment selon le projet.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind,
my mind,
my, 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 my mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on,
ride on.
Well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long,
how long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
From those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love fading away. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love fading away.
My time,
my time.
My time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beat and it's a thumping and I'm alive.
I know you've heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you've heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. And if it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
Dans votre mémoire de licence que j'ai lu, et je vous remercie de me l'avoir prêté, vous parlez à un moment donné d'un contre-exemple d'envergure de l'architecte Le Corbusier et de l'architecture d'intérieur. Est-ce que vous pourriez nous indiquer, par rapport à Le Corbusier justement, la différence qu'il peut y avoir entre architecte et architecte d'intérieur? Et comment, pour ce qui concerne Le Corbusier, c'est un contre-exemple d'envergure?
Alors, j'ai appelé ça un contre-exemple d'envergure parce que, justement, on a cette idée de, des femmes architectes, des femmes qui travaillent plutôt sur la décoration, sur l'intérieur. Et ça, c'est historique. Et justement, Le Corbusier a montré un tel intérêt pour l'intérieur, pour les logements, savoir comment on vit au sein du logement. Par exemple, avec la Villa Savoie, un travail vraiment très particulier, très axé sur l'intérieur, les parcours de l'habitat. Donc pour moi, Le Corbusier, voilà, c'est un grand nom. Beaucoup le connaissent et en fait c'est quelqu'un qui s'est intéressé à autre chose que les grandes structures forcément. Donc moi j'ai vu ça comme un contre-exemple puisque ça n'allait pas dans le sens de la femme architecte à l'intérieur et l'homme qui bâtit et donc c'est en ça que je parle de ça.
D'accord. Le prix des femmes architectes qui a été créé en 2013, il continue toujours ?
Oui. D'accord. Oui, il continue toujours. Et oui, donc ce prix, c'était pour mettre en avant le travail des femmes architectes. Alors, on peut trouver ça aussi dommage, puisque il faut un prix pour mettre en avant notre travail. Et c'est pas forcément avec l'idée que on ne distingue pas les femmes des hommes architectes, quoi. C'est pas en accord avec ça, donc c'est dommage d'en arriver là, je trouve.
Mais ça permet quand même de faire avancer un peu les choses aussi.
Oui, certainement, bien sûr. Ça met en évidence un travail qui n'est pas forcément reconnu.
Ça peut être, d'un certain point de vue, emblématique. Dans votre mémoire de licence, vous avez présenté un certain nombre de photos de sites architecturaux particulièrement, remarquables. Et j'ai remarqué, moi, parmi ceux-là, le centre culturel de Bakou, le centre Aliyev, qui est un monument, si vous voulez, qui est à la fois très beau et en même temps très utile, puisque il doit servir en tant que centre culturel à l'ensemble de la population. Est-ce que vous avez, par rapport au reste du monde, d'autres sites emblématiques de ce genre qui vous ont particulièrement intéressé et qui ont peut-être fait naître chez vous le goût pour cette architecture que vous êtes en train d'étudier?
Avant d'être à l'école, j'ai toujours, pendant mes voyages, j'ai toujours observé les choses. J'ai toujours été admirative des prouesses architecturales. Mais c'est surtout depuis que je suis à l'école, les voyages que je fais, notamment à Rome, quand on se retrouve face à la basilique Saint-Pierre, par exemple, voilà, c'est plutôt des anciens bâtiments, on va dire, que des bâtiments aussi récents que celui de Zahadid en Azerbaïdjan. C'est plutôt ce qu'on a pu faire avant, avec les moyens qu'on avait, qui m'impressionne.
Alors vous savez peut-être qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent à l'heure actuelle que l'architecture ancienne, c'était quelque chose de magnifique, et que l'architecture actuelle, bon, d'ici une trentaine ou une quarantaine d'années, il n'en restera plus rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion ou pas?
Ce qui est vrai, c'est qu'on construit pour des plus courtes durées, on le sait. Mais ce qui est très intéressant aussi, je trouve, là-dedans, c'est qu'on peut espérer qu'un bâtiment perdure tout en anticipant ce qu'il peut devenir. On peut se dire aujourd'hui c'est des logements, dans 15-20 ans ça pourra devenir des bureaux. On peut vraiment penser à l'évolution d'un projet aujourd'hui. Je pense que c'est assez intéressant, notamment quand on voit que c'est possible, quand on réhabilite des bâtiments d'anciennes usines, Je trouve que c'est cette dimension-là aujourd'hui qui est intéressante.
Dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers, nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter. Chez la taverne dans mon cœur, tout comme autant des fleurs, où l'on vivait sans peur, où chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait. ce soir je suis devant la porte de la taverne où tu ne viendras plus. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît plus.
Il y a quelques années, par exemple, le centre Beaubourg, le centre Pompidou à Paris, avait été jugé par un certain nombre de personnes comme un bâtiment hideux qui allait disparaître très rapidement. Maintenant, c'est devenu un élément essentiel au sein de Paris. Et on visite le centre Beaubourg uniquement, alors, naturellement pour les expositions, etc., mais aussi pour l'architecture telle qu'elle est, avec un monument qui est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Donc, il peut y avoir de l'architecture qui s'inscrit dans la durée, même de l'architecture contemporaine.
Oui, bien sûr, je pense que en fait, c'est assez culturel aussi. On a du mal à accepter les changements, à voir parfois des objets qui ne ressemblent pas à ceux qu'on a déjà vus. Mais en soi, il faut savoir, il faut connaître l'intention de l'architecte et ce qui voilà ce qu'il a vraiment voulu faire pour commencer à être convaincu de l'efficacité, ou alors il faut s'y rendre et voir que ça fonctionne. Mais souvent oui, on a l'impression, on peut entendre que c'est une lubie de l'architecte d'avoir fait telle ou telle chose, mais tout est fondé. Nous, ce qu'on nous apprend, c'est à vraiment réfléchir avec les données qu'on a et à répondre à une vraie demande, pas juste à se faire plaisir.
Oui, disons que l'architecte ne va pas construire, ne va pas imaginer un bâtiment simplement en effet pour se faire plaisir et quelque chose qui est sorti de sa tête sans qu'il y ait de rapport avec la population qui est là, ceux qui vont l'utiliser, etc. Je voudrais vous faire réagir à quelques belles formules que j'ai retenues sur l'architecture. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. Je vous lis la première. L'architecture, l'habité, l'espace public ont besoin d'être pensés par tous, puisqu'ils doivent être réalisés pour tous. Qu'est-ce que vous en pensez de cette magnifique phrase, enfin à mon avis?
C'est une phrase que j'ai rédigée dans mon mémoire de licence, parce que pour moi, c'est tout simplement ce qui résume ma pensée. Voilà, par rapport à la question du genre, par rapport à l'architecture, pour moi, ça va de soi. Pour qu'un projet soit vraiment riche, qui pense à tout le monde, qui puisse répondre au plus de demandes possibles, il faut que ce soit pensé par tous, par le plus de type de personnes différentes. Pour moi, c'est vraiment la diversité qui va faire que on pourra bien réaliser un projet. Et donc, notamment, cette question de genre, pour moi, n'a pas lieu d'être. On crée pour tous, donc par tous.
Une autre formule, enfin, une autre citation, « Les architectes sont des traducteurs ». Là, voilà quelque chose qui m'a surpris. Ils traduisent quoi ? Ils sont des traducteurs de quoi ?
Oui, alors ça, c'est une formule d'Yvonne Farrell qui a reçu le prix Pritzker l'année dernière, il me semble. Les traducteurs, justement, les architectes sont des traducteurs parce qu'ils écoutent une envie, un besoin pour les traduire en un bâtiment, en du concret, en voilà, un projet qui va vraiment qui va être réalisé et qui va permettre une transformation, voilà, des envies à une situation réelle et concrète.
Et vous pensez donc qu'à l'avenir, de plus en plus de gens vont s'emparer, disons, du travail des architectes, vont travailler avec des architectes, en un mot, que l'architecture se démocratise alors dans ces conditions?
Je l'espère. Je l'espère. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut. C'est par là qu'il faut prendre les choses.
C'est en effet un beau. Comment on pourrait dire ça, un beau projet, un bel avenir. Et si ça se réalise, ça peut être en effet très intéressant pour la société dans son entier. Une autre formulation qui m'a semblé tout à fait originale. Je ne suis pas architecte femme, nous dit une architecte. Je suis architecte. Je ne suis pas une architecte femme, je suis architecte. Vous, c'est quelque chose qui doit vous sembler être vrai.
Oui. Alors, c'est une citation qui est écrite sur une première page, une première couverture d'un livre, en gros, sur un livre rouge. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est exactement ça, c'est exactement le propos dont je veux parler dans mon rapport. Et oui, ça me parle parce que ça va dans le sens de toutes les idées dont je parle depuis tout à l'heure. Voilà, pour moi, c'est un être des expériences. Une sensibilité qui c'est tout ça qui va faire qu'on va faire un projet d'une telle façon, qu'on va concevoir l'architecture d'une certaine façon, et c'est en aucun cas le genre pour moi.
Vous êtes en ce moment donc en master. Votre avenir, question un peu à brûle pour point.
mon avenir, alors là, dans mes études, pour l'instant, j'essaie de pas fermer de porte. J'essaie de. Voilà, pour l'instant, j'étais très attirée par le logement. Et pour autant, je ne me ferme pas à des questions d'urbanisme. Voilà, j'essaie juste de découvrir le plus de choses possible pour l'instant. Et je pense après que. Ça va encore se déterminer là pendant les deux dernières années de mes études, mais aussi avec mes expériences plus tard dans des agences. Donc là, comme ça, je ne pourrais pas dire ce que je ferai dans quelques années.
Un bel avenir de toutes les manières. Eh bien, Ottilie, on va vous remercier pour cet entretien fructueux. C'était clé en main pour nous ouvrir au monde de l'architecture. Prenez soin de vous et des autres, Radio Grand Ciel RGC, la radio qui rapproche les hommes et les femmes, qui nous rapproche. Merci Ottilie et à bientôt.
Merci, au revoir.
De tu vida y de tu tiempo, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha. De tu vida y de tu tiempo, oh, que te quiero. déjame sentir el movimiento. Solo quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. Cha-cha-cha.
Radio Grand Ciel.
If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be serving like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo. You'll catch them surfing at
Inside, outside USA.
Ventura County line.
Inside, outside USA.
Santa Cruz and
Trinidad. Inside, outside USA.
Australia's Caribbean.
Inside, outside USA.
All over Manhattan.
Inside, outside USA.
And down Bohini Way.
Inside, outside.
Everybody's got
surfing.
Surfing USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. Waxing down our surfboard, we can't wait for June. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA. And Anchor Bees and Swan,
inside, outside USA.
Pacific Palisade,
inside, outside USA.
San Onofre and Sun,
inside, outside USA.
Redondo Beach, LA,
inside, outside.
Everybody's got
surfing,
surfing USA.